Je vais commencer rapidement parce que ce matin, j'ai des choses à vous dire. Quoique ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui a des choses à nous dire en ce matin. Et je ne voudrais pas vous garder jusqu'à midi. L'horloge là me donne 10h40, c'est bon, c'est à l'heure? Je peux me baser dessus? À peu près? Ok, donc je me base sur ce que j'ai devant les yeux. Alors, dans ce mois d'avril, nous étudions le livre Éphésiens. Et pour ceux qui l'ont pas encore constaté, pourtant je pense qu'on a eu l'occasion de le dire, mais on peut rappeler que ce livre des Éphésiens est composé de trois parties. Une partie 1 qui commence du chapitre 1 et va jusqu'au chapitre 3 qui traite de la position du chrétien. Laissez-moi vous décrire quelque peu cette position par quelques extraits du chapitre 1, juste le chapitre 1. Au verset 5 du chapitre 1, on peut lire « Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. » Au verset 7 du chapitre 1 des Éphésiens, on nous dit que « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. » Au verset 4, on nous apprend encore « En Christ, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Non pas que nous ayons atteint un niveau de perfection, pas du tout, mais parce que Dieu nous voit maintenant à travers Christ qui est mort à notre place. Au verset 3, Dieu nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. La position du chrétien se définit en Christ. Christ est mort et Dieu l'a ressuscité, l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, en Éphésiens chapitre 1, verset 20-21, on nous dit que là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité. Éphésiens chapitre 1, verset 20-21. Et le plus beau est à venir. Vous n'avez encore rien entendu. Écoutez ça. Éphésiens chapitre 2, verset 6 nous dit ceci. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. En êtes-vous conscient? Vous me voyez là ce matin? Mais je ne suis pas là. Bon, soyons plus clairs. Je ne suis pas que là. Je suis en Christ dans le monde céleste. Vous arrivez à y croire? Nous sommes en Christ, et Christ est dans le monde céleste. Donc, en Christ, nous sommes dans le monde céleste. Vous vous rendez compte? Ces passages à eux seuls, du chapitre 1 et du chapitre 2, mériteraient un temps d'étude. Quoiqu'on a commencé avec le chapitre 1. Pour ceux qui n'y étaient pas, depuis jeudi, il y a fait deux jeudis qu'on commence à l'étude du chapitre 1. Je regrette de ne pas avoir été là le deuxième jeudi. Ça s'est bien passé le deuxième jeudi qui était... Très bien passé? Super. Ceux qui n'étaient pas là, je suis sûr que vous avez raté quelque chose. J'ai raté quelque chose, je regrette. Dans le livre des Éphésiens, on a une partie 2 qui débute au chapitre 4 par les mots suivants. « Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Partie qui se termine au verset 9 du chapitre 6. Dans cette partie, il nous est montré la pratique du chrétien à travers ses relations avec les autres, les hommes sur terre. Comment vivre en Christ? Et vivre en Christ, ça a des conséquences. Parce que vivre en Christ, ça signifie vivre comme Christ, comme il le souhaite. Il est notre sauveur et il devient aussi notre Seigneur. Ça n'a absolument rien à voir avec la façon de vivre qu'on avait avant. Le monde, lui, ne sait pas vivre comme Christ. La marche C'est-à-dire la manière de vivre du chrétien doit être en harmonie avec notre nouvelle identité qui nous a été accordée par grâce. Et enfin, ce livre des Éphésiens se termine avec une partie 3 qui présente le combat, la lutte du chrétien. Et oui, il y a un combat. Le mot grec qui a été traduit pour donner le mot lutte, combat, est le mot pal, qui fait en fait référence à une lutte entre deux combattants dans lequel chacun essaie de renverser l'autre. Le passage que nous allons lire ce matin traite de ce conflit. Ce conflit qui est un corps à corps, mano à mano, avec l'ennemi. Ces trois parties sont étroitement liées. Comprenons que ce n'est qu'une fois que nous sommes bien conscients de notre condition, notre identité en Christ, première partie, que forcément nous sommes amenés à faire attention à notre façon de vivre, partie 2. Et lorsque nous avons pris conscience de cela et que nous commençons à vivre en Christ, c'est là que l'ennemi commence à faire son travail de chape, parce qu'il n'est pas content. Et c'est là que le combat commence. Donc le message ce matin va traiter de ce combat. Mais je vous conseille, si vous en avez le temps, relisez le livre des Éphésiens entièrement. Vous allez pouvoir extirper tous les trésors, tous les secrets qu'il renferme. Et à la fin, vous ne pouvez que vous agenouiller pour dire, Seigneur, merci. Merci pour tout cela. Alors oui, ce matin, je vais vous inviter à plonger vos regards dans le livre des Éphésiens, dans le chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Et nous allons faire la lecture, étonnamment, ceux qui étaient là la semaine dernière sont étonnés, parce que je vais commencer par le chapitre 10, par le verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10, et nous irons jusqu'au verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Il nous est dit ceci, j'en fais la lecture dans la version Semeur. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque, et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, en toutes circonstances. Faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole qui est cette lampe à nos pieds. Je te prie de nous éclairer, de renouveler notre intelligence par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre ce que tu cherches à nous dire, que nous puissions nous en imprégner, que nous puissions l'accepter, le laisser entrer en nous, qu'il puisse nous impacter, qu'il puisse nous transformer, qu'il puisse nous aider à agir comme bon te semble, parce que notre désir, c'est de te plaire, notre Dieu. Amen. Dieu sait prendre soin de son Église, n'est-ce pas? Il prend soin du CED. Il ne laisse rien au hasard. Dimanche dernier, il a utilisé son serviteur, notre frère Fernand, pour nous toucher à travers les versets 10 à 13. Notre frère Fernand nous a invités à travers cette parole à tenir debout, même dans les mauvais jours. Et vous devez tous le remercier parce que s'il ne l'avait pas fait, je lui traiterais de ce qu'il a dit et on serait finalement parti à 13 heures. Mais finalement, il a fait déjà le travail pour les versets 10 à 13. Merci Fernand. Alors pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, je vous invite, puisque vous n'étiez pas là, vous pouvez vous connecter, un peu de pub, ça ne fait pas de mal. Le site est ici. La prédication de notre frère Fernand se trouve sur notre site. Et donc, je ne vais pas revenir sur les versets 10 à 13, juste à revenir sur quelques éléments importants pour comprendre le passage que nous allons traiter ce matin. Vous l'avez compris, ce passage parle de combat. Que diriez-vous d'un amnésique qui se trouverait sur un champ de bataille et qu'il a oublié qu'il est soldat, il ne comprend pas ce qu'il fait là, il regarde comment il est habillé, il ne voit pas ce qu'il fait avec ça, il ne connaît même pas le camp ennemi, il ne sait même pas qui est allié, qui est ennemi. On ne donnerait pas trop cher de sa peau quand même, hein. Ses chances de survie seraient bien minces. Et pourtant, c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Oui, oui, beaucoup de chrétiens ne se rendent même pas compte des combats qu'ils ont à mener. Voyez-vous-même. Déjà, il est vrai que beaucoup de chrétiens se soucient du combat contre le péché que nous avons en nous. Attention, ce n'est pas de cela que traite le livre des Éphésiens. D'ailleurs, il est étonnant que les chrétiens puissent s'épuiser dans ce type de combat alors que la Bible ne nous a jamais invités à mener ce combat. Puisque la Bible nous dit que nous sommes affranchis de la puissance du péché par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas à lutter contre le péché qui est en nous. Romains 6, verset 11, nous donne cette tâche. Considérez-vous comme mort pour le péché, mais comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché s'est réglé par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Et parce que nous sommes en Christ, ce problème est réglé. La Bible ne nous demande pas de lutter contre le péché. Bien sûr, on a une attitude à avoir. La Bible ne nous invite pas à nous complaire dans le péché non plus. J'espère que vous m'avez compris. Les chrétiens pensent souvent aussi au combat contre les tentations et les séductions du monde. Aujourd'hui, Éphésiens 6 ne traite pas non plus de ce combat. Par contre, la Bible est claire à ce sujet. Dans ce type de situation, pour ce type de combat, la solution est très simple. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, je ne sais même plus quand, les jeunes avaient justement traité de ce cas, dans la personne de Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait face à la tentation? Il a fui. La Bible est claire. Fuis les passions qui assaillent un jeune homme, 2 Timothée 2, verset 22. Fuyez les conduites sexuelles, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez le culte des idoles, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. Face à certaines situations, la solution, c'est la fuite. Dans la Bible, nous voyons, on nous parle aussi en Philippiens, chapitre 4, verset 3, de combat pour la cause de l'Évangile. Ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui. 2 Corinthiens 10 traite du combat contre les faux enseignements. Tous ces combats, la plupart d'entre nous, nous en sommes conscients. Nous savons que nous avons ces luttes à mener. Pourtant, Éphésiens 6 ne parle pas de ce type de lutte. Sommes-nous bien conscients de ce que Éphésiens 6 nous parle ce matin? Éphésiens 6 fait référence à une lutte que nous avons trop souvent tendance à ignorer ou bien sous-estimer. Comme je l'ai évoqué plus tôt, le mot lutte traite d'un combat au corps à corps. Les adversaires qu'on parle de lutte se retrouvent sur un même lieu, sur un ring. Et c'est bien le cas. Petit rappel, Jésus-Christ siège désormais où? Vous le savez? Dans le monde céleste. Éphésiens 6 nous l'a dit dans le chapitre 1, verset 20. Nous siégions où nous? En Christ donc, dans le monde céleste aussi. Et surprise, il est où le diable? Oui, mais il est où? Vous le saviez peut-être pas, mais lui aussi, il est dans le monde céleste. Ça nous est dit aussi dans Éphésiens, entre autres verset 12. Donc, nous sommes tous au même endroit et il y a une lutte dans le monde céleste. Nous sommes participants à une lutte dans le monde céleste. Mais est-ce que nous en sommes bien conscient. Des fois, on se limite à ce que nous voyons, nos yeux. Mais sommes-nous conscients que nous sommes participants à une lutte dans le monde céleste? Ne pas en être conscient, c'est prendre le risque de chuter parce que l'ennemi, lui, ne nous oublie pas. Et puisque nous sommes conscients d'être participants à un combat, voyons un petit peu le soldat. Le livre des Éphésiens s'adresse à ceux qui font partie du peuple saint, ceux qui croient en Jésus-Christ. Cela nous est dit dès le premier chapitre, dès le premier verset. Et pourtant, notez bien que le livre des Éphésiens se termine par le thème du combat céleste. Comprenons bien que le but du combat, ce n'est pas d'obtenir les bénédictions spirituelles. Toutes ces bénédictions qui sont décrites au chapitre 1, 2 et 3, nous sommes déjà acquises. Nous sommes acquises, Dieu nous les donne, puisque nous sommes en lui. N'allez pas dire que je vais au combat pour gagner des bénédictions. Ce serait totalement faux. Ces bénédictions sont déjà nôtres. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Ce combat, alors, quel est son but? Pourquoi Paul nous avertit? Tout simplement pour que nous tenions bon jusqu'au bout. Ce serait bien dommage de passer à côté de toutes ces bénédictions. Ce serait bien dommage de laisser l'ennemi nous attaquer, nous faire chuter et que nous passions à côté. Les chrétiens que nous sommes, qui sont conscients de cette lutte, et conscients que cette lutte va bien plus loin que ce que nous voyons, mais se passe dans le monde céleste, nous comprenons que ce soit nos forces, nos stratégies, nos tactiques, nos armes, elles ne sont d'aucun effet contre l'ennemi. Si quelqu'un veut aller dans le monde céleste armé d'une mitraillette, ça ne servira à rien. Et même s'il veut, j'aimerais bien savoir comment il va faire. Ce n'est pas possible et c'est totalement inutile. Mais de même que David n'a pas pu porter l'armure de Saül, il nous est impossible par nous-mêmes de porter l'armure de Dieu. Ce n'est pas possible. Pour combattre dans le monde céleste, nous avons besoin d'une armure céleste, c'est sûr. Nous avons besoin de l'armure de Dieu pour vaincre l'ennemi. Et pour pouvoir porter cette armure, nous devons, comme le dit le verset 10, il a rappelé notre frère Fernand, puiser notre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Ce n'est pas possible par notre propre moyen. Nous devons puiser notre force dans le Seigneur. Et une fois que nous avons bien compris que nous sommes ces soldats, ne sous-estimons surtout pas l'ennemi, l'adversaire. En préparant ce message, en feuilletant des ouvrages, il y en a un qui m'a interpellé pour me rendre compte de quelque chose. J'étais convaincu que les attaques de l'ennemi étaient exclusivement dirigées vers nous et surtout contre nous. Mais en réalité, la cible du diable, ce n'est pas nous, c'est Dieu directement. Il s'attaque à nous pour toucher Dieu. Pourquoi? En Éphésiens chapitre 1, verset 6, je ne sais pas si je l'ai mis, oui, tout à fait, on nous explique que toutes les bénédictions spirituelles que nous obtenons en Christ, Dieu nous les accorde afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. L'ennemi s'efforce de nous priver de toutes ses richesses afin de priver Dieu de la gloire qui devrait être rendue visible en nous. Lorsque le monde voit ce que Dieu est capable de faire dans chacun d'entre nous, ils ne disent pas « Waouh, Daniel est trop forte ». Non, comme ils savent qui est Daniel, ils se disent « Waouh, Dieu est puissant quand je vois ce qu'il est capable de faire en Daniel ». Toute la gloire revient à Dieu. Et l'ennemi veut enlever tout cela à Dieu. Par contre, quand le monde voit un chrétien tomber, il ne s'empêchera pas de dire, mais comment? Leur Dieu n'est pas capable de prendre soin d'eux? Alors ne faisons pas le jeu de l'ennemi. Emparons-nous de cette armure afin que, comme Paul nous invite à le faire, nous puissions tenir bon. Et donc, entrant dans le vif du sujet, vous allez me dire, au bout de 20 minutes, Nicolas entre maintenant dans le vif du sujet. Bon, on y arrive. Voyons donc c'est quoi cette armure. Il faut vraiment faire attention afin de ne pas donc se retrouver comme David. Incapable de bouger avec une armure qui ne n'est pas la nôtre. Il est donc important de bien comprendre ce qu'est cette armure. Que diriez-vous d'un soldat qui, tout en étant armé, est incapable d'utiliser son épée, son bouclier, il ne sait rien faire? Ça ne sert à rien. Donc, que les choses soient claires, il n'est pas donné aux croyants de pouvoir se permettre de privilégier une partie de l'armure et de négliger une autre. Ce n'est pas possible. Si vous négligez une seule partie, c'est sûr, l'ennemi va repérer la partie qui est négligée et va vous attaquer sur votre point faible. Vous courez à l'échec si vous faites ce choix. De plus, il est aussi indispensable de bien connaître chaque partie de l'armure. Elle nous est décrite dans un ordre précis et ce n'est pas anodin. Enfin, je vous rappelle que ce n'est pas pendant le combat que le soldat apprend à utiliser l'armure. Cela demande de l'entraînement, cela demande de la préparation. Dans le verset 11, Paul nous invite à revêtir l'armure de Dieu. Lorsqu'on entend « revêtez-vous », on entend sans une idée de permanence. On ne s'équipe pas de l'armure pendant le combat. Ce n'est pas quand l'ennemi arrive que vous allez prendre l'armure. Vous devez, le chrétien doit porter constamment son armure, prêt à tout danger. Cette armure doit être un vêtement permanent pour le chrétien. Alors voyons dans le détail cette armure. On commence donc avec la ceinture de vérité. Éphésiens chapitre 6, verset 14, « Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. » Le soldat romain était habillé d'une simple tunique, un carré de tissu. Ils font trois petits trous pour les bras, pour la tête, et c'est bon. Et ça pend, et c'est bon, on est habillé. Pas très pratique pour le combat. Donc le soldat romain, dès qu'il allait au combat, première chose, il met une ceinture, afin de bien tenir ce tissu pour ne pas être gêné. Je ne cesse d'être étonné devant ces jeunes qui portent des jeans, des ceintures, et puis on voit à chaque fois le caleçon. Là, ils n'ont pas compris l'utilité de la ceinture. Pourtant, ils ont une ceinture. Cela me rappelle, et je le considère comme une preuve d'amour. On a besoin de preuves d'amour. Un jour, je suis venu, donc un dimanche matin, prêcher, et j'avais oublié ma ceinture. Et il y a un frère qui me dit, « Nicolas, tu as oublié quelque chose. » Et puis je regarde, je dis, « Mais non, je suis bien. » Il me dit, « Tu n'as pas ta ceinture. » Puis je me dis, « Bon, c'est pas grave, je vais aller, je devais prêcher. » Je dis, « C'est pas grave, ça va tenir. » Il m'a dit, « Non. Tu ne veux pas servir comme ça. » Il m'a donné sa ceinture. Bon, il est resté sans ceinture. Mais j'ai pris ça comme une preuve d'amour. Il a sacrifié sa ceinture pour moi, pour le serviteur. Il m'a dit, mais non, le serviteur ne peut pas aller et puis en train de faire remonter son pantalon à chaque fois, ça ne va pas le faire. Donc, je remercie mon frère Tulle. Je ne t'ai jamais oublié, j'ai jamais oublié cela. Tu penses que je n'allais pas le dire? Mais il a eu pitié de moi et m'a dit, Nicolas, prends la ceinture. Merci, Emmanuel. Vous comprenez qu'on ne peut pas comme ça se déplacer sans ceinture. C'est la ceinture qui maintient tout en place. C'est la ceinture qui démontre que le croyant est prêt à se battre. Et cette ceinture, c'est la ceinture de la vérité. On assimile souvent cette vérité à la parole de Dieu. Effectivement, Jean chapitre 17, verset 17, nous dit que la parole est la vérité. Mais parce que l'apôtre Paul nous invite à revêtir de manière permanente cette armure et que cette ceinture a ce rôle si important, je rejoins en fait ceux qui pensent que l'apôtre Paul ne fait pas référence directement à la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous invite à en fait être imprégné constamment de vérité. Pour l'apôtre Paul, le chrétien préparé au combat vit constamment dans la vérité. Il est vrai dans sa façon d'être. Il est vrai dans sa façon de vivre. En lui, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de faux semblant. Il est animé par une recherche constante de la vérité, vivre par la vérité. C'est une façon de vivre, être saint de la ceinture de la vérité. Ensuite, nous avons la cuirasse de la justice. Revêtez-vous de la droiture, dans certaines versions, en guise de cuirasse. Le rôle de la cuirasse, c'est clair. Protéger le cœur et les organes vitaux. Ainsi, face aux attaques surprises qui n'auraient pas pu voir venir, ou celles qui n'auraient pas su contrer, le soldat sait qu'au moins le cœur et les organes vitaux sont protégés. Le chrétien, lui, se protège à travers la justice. Porter la cuirasse de la justice, c'est vivre non pas par notre justice, mais celle de Dieu. C'est-à-dire dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et constatez, si vous avez le temps, quand vous irez feuilleter le livre des Éphésiens, qu'au chapitre 4, il nous était déjà dit cela. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, verset 24, nous dit ceci. « Cela consiste à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. » Cette cuirasse de la justice doit donc impacter nos relations avec les autres. Que ce soit frère ou sœur en église, que ce soit incroyant, que ce soit un membre de ma famille, que ce soit un étranger, un ami ou même un ennemi, le croyant doit constamment manifester un attrait pour la justice et rejeter tout ce qui est injustice. C'est une façon de vivre. Il y a ensuite les chaussures. Les chaussures de l'évangile de la paix. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. Ça peut changer un petit peu selon la version. Il y a beaucoup de personnes qui limitent cet évangile de la paix à l'évangile tout court. Tout simplement, ils voient cela comme une invitation à être zélé pour l'évangélisation. Là encore, je pense comme d'autres que ça va encore plus loin. L'apôtre Paul nous invite à revêtir les trois premières parties de l'armure qui sont la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de la paix. Ce sont des choses qui doivent être portées constamment, ancrées en permanence dans le chrétien. Je pense que la troisième arme, les chaussures, découle naturellement des deux premières. Le chrétien est animé par la vérité, il a une soif de justice et donc il est naturellement poussé à rechercher la paix, autant dans sa famille spirituelle que dans le monde. Bien sûr, ce désir de paix et d'amour va l'amener à annoncer la bonne nouvelle dans le monde. Mais ce même désir va conduire ses actions dans l'Église à favoriser la paix. Alors, quand je parle de paix, attention. Ce n'est pas rechercher la paix en toutes circonstances en évitant de faire trop de vagues. Il faut que l'Église soit en paix, alors je ne dis rien aux frères, je ne dis rien à la sœur, même si je sais qu'elle fait quelque chose qui n'est pas bien. Paix entre nous, on ne dit rien, on est tranquille, et tout le monde va bien. Ce n'est pas ça l'idée. Attention, ce n'est pas l'idée. N'oublions pas que c'est la troisième arme après vérité et justice. Donc, on doit rester en vérité. Mais cette vérité ne doit pas nous pousser à être des chercheurs du mal pour corriger tout ce qui ne va pas. Hein, mon frère, ça ne va pas. Hein, ma soeur, ça ne va pas. Non, là non plus. Cette recherche de paix, cette tendance à dénoncer le mal, doit se faire de manière réfléchie. Dans la vérité, par un esprit de justice, dans un désir de paix qui règne au sein de notre communauté. Et cela ne se peut que sous la direction de notre Dieu, ce Dieu de justice qui demeure, je rappelle, le propriétaire de l'armure. Frères et sœurs, comprenez ce matin que lorsque vous serez revêtus de vérité, de justice, de paix, à ce moment-là, le diable, il va changer de tactique. En effet, si vous êtes revêtus de vérité, de justice et de paix, il va se rendre compte que la ruse n'aura pas beaucoup d'effet. Se camoufler, se déguiser parce qu'il est rusé, alors que vous êtes dans la vérité, ça ne marchera pas. Et donc, il va se montrer plus virulent. Il ne va pas du tout se cacher. Il a bien compris que vous êtes conscient qu'il est là. Ce n'est pas la peine de se cacher. Ce sera tout simplement un ennemi déclaré. Plus de cachette. Il va au fond, directement devant vous. Et c'est pour cela que nous allons passer aux armes suivantes. Parce que constatez que l'apôtre Paul ne nous invite pas à être revêtus de ces armes. Les armes suivantes, il nous invite à nous en saisir. Prendre les armes qui vont suivre. Premièrement, nous sommes invités à prendre le bouclier de la foi. Effectivement, verset 16, « Saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. » Pour se protéger des flèches de l'ennemi, nous avons la foi. C'est-à-dire, nous devons croire en notre Dieu. Être couvert du bouclier de la foi, c'est manifester aussi de la patience. Le chrétien doit s'attendre à Dieu. Quand ça devient chaud, insoutenable, le croyant demeure protégé sous le bouclier de la foi. Il n'en sort pas avant que le Seigneur lui dise « c'est bon ». Sous ce bouclier, le chrétien prend patience. Il attend le bon moment. Parce qu'il sait, parce qu'il a la foi, qu'il peut faire confiance à son Dieu. Il a confiance en ses promesses. Et 2 Pierre chapitre 2, verset 9 nous dit ceci, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » Donc le chrétien attend sous le bouclier parce qu'il sait que son Seigneur va le délivrer tôt ou tard. Donc il attend sous ce bouclier de la foi. Une fois qu'il n'y a plus de coups, il n'entend plus de bruit sous le bouclier, il n'y a plus de flèches qui tombent. Le soldat, alors, peut jeter un petit coup d'œil, mais doucement, tranquillement, au-dessous du bouclier. Parce que peut-être que le diable, il se cache quand même. Il attend qu'on lève la tête. Et qu'est-ce qui se passerait si le soldat, en levant la tête, n'a pas de casque? Tchouk! Et puis c'est fini. Donc, lorsque je suis caché sous mon bouclier, le Seigneur me dit, « Vas-y, c'est bon. Je dois avoir le casque du salut. » Je dois avouer que pour moi, cette expression m'a intrigué. Je ne sais pas pour vous. Il me semble que le croyant qui est équipé de la ceinture de vérité, de la cuirasse de la justice, des souliers de l'évangile de la paix, qui a en sa possession le bouclier de la foi, ce chrétien a déjà le salut, enfin bon, il a son casque. Pourquoi nous dire de prendre le casque? Il n'a pas perdu entre-temps son salut. Il a la vérité, la justice, la paix, la foi, il n'a pas le salut. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, l'apôtre Paul s'adresse à des croyants. Ceux qui peuvent s'équiper de l'armure divine, c'est forcément ceux qui sont déjà sauvés. Alors pourquoi nous conseiller de saisir le casque du salut? Je constate que cette action est associée à une autre action. Prendre l'épée. Les deux sont associés. Dans le passage, on nous dit de prendre le salut pour casque et l'épée. Les deux vont ensemble. Pourquoi? Lorsque le chrétien va se saisir de l'épée, c'est pour frapper un ennemi redoutable qu'il ne faudrait surtout pas sous-estimer. L'instant d'avant, le chrétien était sous un bouclier. Il se protégeait. Maintenant, il doit contre-attaquer. Pour contre-attaquer, il doit oser. Oser jeter un regard par-dessus le bouclier. Et sachant que l'ennemi est redoutable, pour qu'il puisse trouver la force d'oser jeter le coup d'œil. Il doit s'appuyer sur le salut qu'il a en Christ. D'où l'intérêt d'avoir toujours ce casque sur la tête. Satan n'est pas dupe. Il connaît nos faiblesses. Il sait qu'un croyant qui doute est un croyant vulnérable. Un croyant qui doute, le bouclier de la foi est fragile. Un croyant qui doute, un casque qui ne le protège plus. Nous devons avoir ce bouclier de la foi et ce casque du salut toujours en bon état. Pas de doute. Et enfin, on arrive au dernier, verset 17. Prenez l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Comme le bouclier de la foi et l'épée du salut, l'épée doit toujours être à portée de main, prête à être dégainée. Vous savez, on parle souvent du côté offensif de l'épée. Mais l'épée est aussi une arme de défense. L'épée est capable de dévier les coups de l'adversaire. Quand on vient, je ne suis pas soldat, mais quand on vient, vous me direz aussi de ce temps-là, parce que bon, avec un fusil, c'est rapide. Bon. Mais prenons l'image de l'épée. Quand l'adversaire vient vous donner un coup vers la tête, avec votre épée, vous pouvez protéger votre tête. Il n'y a pas que le bouclier qui protège. Cependant, l'usage de cette épée demande précision, demande habileté. Si votre adversaire vient vous attaquer avec son épée sur la tête et avec votre épée vous protégez le pied, c'est fichu. Vous devez être capable de parer le coup quand il vient en haut, quand il vient en bas, quand il vient à gauche. Le chrétien doit être capable de précision lorsqu'il utilise la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Et bien sûr, l'épée demeure, vous le savez, une arme offensive, capable d'infliger des coups. C'est avec cette arme que nous sommes capables d'aller dans le camp de l'ennemi pour extirper des âmes. Et ce n'est surtout pas par nos propres forces, notre capacité soi-disant de convaincre, notre langage, que nous allons changer les cœurs des hommes. C'est par la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Elle est vivante, efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Hébreux chapitre 4, verset 12. J'en finirai ces conseils de l'apôtre Paul avec une dernière arme qui ne correspond pas, qui n'entre pas dans la description de l'armure, la prière. Pourtant, cette arme n'est pas la moins importante, loin de là. Au verset 18, on nous disait, « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. » En Luc chapitre 18, verset 1, Jésus utilisa une parabole pour montrer aux disciples qu'il est important de prier, qu'il devait toujours prier sans se décourager. Lorsque le combat s'éternise, devient dur, lorsque le soldat est prêt à chanceler, il fatigue, il faiblit, dans cette lutte contre le diable, nous devons prier. Ou on prie, ou on plie devant le poids des attaques. Il faut choisir. C'est donc pour cela que je ne cesserai de vous encourager, pasteur et ancien de même, à venir le mardi soir pour que nous puissions saisir cette arme et que nous puissions prier ensemble. Mardi soir, 19h. On se donne rendez-vous pour ceux qui le peuvent. L'apôtre Paul nous invite à prier pour les saints. Mais les saints, c'est nous. Pouvons-nous prier pour les saints, pour nous, si j'ai quelque chose contre mon frère et contre ma sœur? Compliqué. En Marc chapitre 11, verset 24-25, nous pouvons lire ceci. Je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. D'ailleurs, le croyant qui a quelque chose contre son frère, on peut se poser la question, est-ce qu'il a bien pris sa ceinture de vérité, sa cuirasse de la justice, ses chaussures de l'évangile de la paix? Ce matin, notre Dieu nous invite à faire attention à cette armure qu'il nous laisse et toutes ses armes. Parce que nous sommes participants à une lutte, un combat. Et le fait de l'ignorer, de faire l'autruche, ce n'est pas en mettant votre tête dans un trou que le diable va partir. Il est là, il rôde autour de chacun d'entre nous. Alors peut-être que ce matin, ce message te porte à te poser plus de questions que tu n'as de réponses. Tu te demandes si tu dois prendre part à ce combat, je te le répète, tu n'as pas le choix. Le diable ne te laisse pas le choix. Il est là à côté de toi et il veut te détruire. Alors peut-être que tu te poses la question, mais est-ce que je suis à la hauteur? Oui, tu es à la hauteur. Non pas parce que tu es fort et musclé, non. Parce que l'efficacité de l'armure ne repose pas sur toi, mais repose sur son propriétaire, Dieu le Tout-Puissant. Peut-être que tu es craintif, tu te demandes, mais est-ce que j'ai une chance de gagner? Oui, tu as déjà gagné. Christ a vaincu le diable, il a remporté la victoire, et en Christ, nous aussi, nous sommes vainqueurs. Frères et sœurs, nous devons comprendre que la bataille se gagne d'abord par notre posture. Je suis appelé à vivre en chérissant la vérité, ma ceinture. C'est-à-dire en étant vrai dans ce que je suis, en rejetant tout mensonge. Je suis invité à demeurer droit en toutes circonstances et défendre la justice, ma cuirasse. Je suis invité à rechercher la paix, mes souliers, en tout temps. J'encourage la paix dans toutes les situations que je rencontre. Et quand ça devient trop chaud, que l'ennemi se lâche sur moi, je saisis mon bouclier de la foi, car je crois en Dieu et en ses promesses. Mon casque du salut demeure posé sur ma tête, et je peux donc faire face à l'ennemi, brandir mon épée, la parole de Dieu. Et du début à la fin, ne négligez pas ce point. Du début à la fin, je demeure en prière. Car à travers l'armure, c'est Dieu qui combat pour moi. Petit détail pour finir. Il est frappant que, en ce temps-là, il n'y avait pas d'armure pour le dos. Effectivement, la cuirasse qui a été traduite du mot « thoraxa », qui signifie « poitrine », ne protégeait que la partie de devant, du cou jusqu'au nombril. On peut se demander pourquoi. Mais finalement, je pense qu'on peut apprécier d'autant plus cette image. Parce que autant pour certains combats, et on l'a dit, nous devons fuir, autant pour ce combat contre l'ennemi, il ne faudrait surtout pas lui donner le dos. Jamais prendre l'autre direction et fuir. Nous sommes invités à combattre. Si je tourne le dos pour fuir, l'ennemi n'attend que ça et tchouk, parce que la cuirasse ne protège pas le dos. Nous ne devons pas fuir, mais compter sur les forces que le Seigneur nous donne. Et compter sur cette armure indestructible parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, lorsque l'ennemi s'acharne contre nous, Jésus demeure le plus fort. Et il nous rassure. Il nous dit ce matin, si toi tu es dans l'épreuve, tiens bon, ne t'inquiète pas. Il aboie beaucoup, il fait plein de bruit. Mais il n'est pas si méchant, je l'ai déjà battu. Et je suis avec toi. Ne fais pas attention à toutes ces flèches. tu as ton bouclier en moi. Ne fais pas attention, ça te paraît fort, ça te paraît insurmontable, mais tu n'es pas appelé à combattre. Je combats pour toi. Tu as juste à revêtir l'armure que je te donne. Saisir cette armure et toujours l'avoir sur toi, parce que l'ennemi ne dort pas. Soyons vigilants, frères et sœurs.